C'est intéressant, il y a 12 apôtres et là il y a 12 petits prophètes. On dit des fois que le nombre 12 c'est le nombre de l'administration, mais peu importe, on va voir qu'en fait ils s'appellent les petits prophètes parce que c'est saint Augustin qui a décidé qu'il n'avait pas produit autant de textes que les prophètes qu'on a vus déjà, comme Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Et donc, il les appelle les petits prophètes, ou en anglais, on parle des minor prophets, les prophètes mineurs. Mais ça veut en rien dire que leur message est moins important que les grands prophètes, ceux qu'on vient d'étudier. Le volume de leurs écrits varie grandement. Il y a par exemple Zacharie qui a 14 chapitres, alors que Abdias, en anglais Obadiah, n'a que un petit chapitre. Il faut se rappeler un peu qu'à la fin du règne de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous souvenez? Ça, c'est dans 1 roi 12. Il y a eu un schisme, une séparation. Il y a la nation qui était unie s'est divisée entre des royaumes du nord et un royaume du nord et un royaume du sud. Le royaume du nord, la capitale était Israël. Le premier roi, ça a été Jéroboam, fils de Nébat. Le royaume du sud, c'était le fils de Salomon, Roboam, qui continuait à régner à Jérusalem. Et on appelait le royaume du sud, donc le royaume de Juda. Et il y avait aussi une partie de la tribu de Benjamin. Le royaume du nord, c'était les 10 autres tribus, et souvent on appelait, je crois d'ailleurs j'ai fait une erreur la semaine dernière, j'ai dit qu'au sud il y avait Juda, la tribu de Juda et d'Éphraïm. La tribu d'Éphraïm, elle était au nord. On parle même d'Éphraïm, quelquefois pour simplifier, on parle d'Éphraïm pour parler des 10 tribus du nord, et on parle de Juda pour parler des 2 tribus du sud. Et puis, il y a eu donc des prophètes qui se sont levés pour annoncer et demander à Israël de revenir à Dieu pour éviter l'exil. Et finalement, on sait qu'il y a eu un exil en 721, c'est le royaume du nord, dont la capitale était Samarie, qui était parti en Assyrie. Et ça, c'était en 721 avant Jésus-Christ, et plus tard, en 500, il y a plusieurs dates, mais s'il faut s'en rappeler une, c'est 586 avant Jésus-Christ. 721 avant Jésus-Christ, c'est le royaume du Nord qui part en esclavage. 586, c'est Jérusalem qui est conquise et qui part, qui est exilée à Babylone. Alors les prophètes qu'on va voir, eux, il y en a qui sont avant cet exil et d'autres qui sont après cet exil. Il y en a qui ont parlé à Israël pendant l'exil. Il y en a d'autres qui ont parlé à d'autres peuples que Israël ou Juda. Par exemple, le prophète Jonas, lui, a parlé à qui? Vous vous souvenez à qui il parlait?
Des Ninivites.
Il parlait à Ninive, les Ninivites. Les Ninivites, les ancêtres des Niçois, non. Et ça, c'était les... Ninive, c'était la capitale de quel grand pays à l'époque? Il y avait Babylone au sud et Ninive avec l'Assyrie au nord. Entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Voilà, donc on va regarder Osée. Lui, il a été un prophète pour le royaume du Nord pendant le règne de Jéroboam II, le successeur de Jéroboam, auteur du schisme. Son nom, ça signifie salut. Ça fait penser à oser, c'est la même chose que la même racine en hébreu que Jésus, le salut, Jéhovah Shua, c'est le salut. Et donc dans Josué ou Jésus, c'est le mot, la lettre J qui représente le Yahvé, l'initiale du mot Dieu, et donc ça veut dire l'Éternel sauve. Il a précédé de peu Ésaïe et le prophète Michée, et il a eu une drôle de façon d'annoncer la parole de Dieu en la vivant. Et quelque part, ça devrait être un peu la façon dont nous, on annonce la parole de Dieu. Lui, c'était un peu spécial, on va le voir. Mais ce n'est pas le tout de parler de Dieu. Notre vie devrait être une réflexion. Et là, Dieu lui a demandé quelque chose de difficile. Au verset 2 du premier chapitre, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vaut dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. » Et donc, Dieu demande à ce prophète, à cet homme, d'aller épouser une prostituée, parce que dans cette histoire, Dieu veut montrer que Israël, le peuple juif, c'est comme une prostituée, et comme une prostituée qui s'est éloignée de Dieu et qui l'a trompée avec d'autres idoles, avec d'autres dieux. Et souvent, l'idolâtrie est considérée dans la Bible comme de l'adultère. Parce qu'on met toute son énergie, on met tout son cœur pour quelque chose qui n'est pas Dieu. Et bien sûr, l'adultère, c'est la même chose physiquement dans la relation sexuelle. Et cet homme est donc allé prendre une prostituée, Gomer, fille de Diblaïm, et elle a eu des enfants de lui. Et Dieu lui a demandé de les nommer avec un nom bien défini. Au verset 4, le premier garçon qu'il a eu, il lui a demandé de l'appeler Jisraël, qui veut dire « Dieu s'aime ». Et j'interviendrai, dit le Seigneur, verset 4, « contre la maison de Jéhu à cause du sang versé à Jisraël, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la ville de Jisraël. » C'est une grande vallée, cette vallée de Jisraël maintenant, dans cette ville. C'est la vallée d'Armageddon. C'est la vallée dans laquelle se produira le grand combat de l'Apocalypse. La femme Gomer est retombée enceinte et là elle a eu une fille. Et Dieu lui a dit, tu l'appelleras Lo-Ruhamah, qui veut dire celle qui n'est pas aimée, celle dont on n'a pas compassion. Le mot lo en hébreu, ça veut dire non, c'est négatif. Donc lo-ruhamah, ça veut dire la mal-aimée. Et car il dit, je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. Mais, dit-il, j'aurai compassion de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel. Et là, elle va avoir un autre enfant, un fils. Et là, il lui demande de l'appeler Lo-Amni. Et ça veut dire, ce nom veut dire « pas mon peuple ». Et il lui dit « car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis rien pour vous ». Donc Dieu est en colère contre Israël, contre le royaume du Nord, et Osée apporte ses prophéties inspirées par Dieu en nommant ses enfants, en déclarant ce qui va se passer. Mais souvent, on voit la colère de Dieu contre son peuple, et bientôt, il apparaît qu'en fait, Dieu est prêt à pardonner si son peuple revient à lui. Et ça, c'est un message qui est valable pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui est valable aussi pour tous les hommes. Et nous-mêmes, lorsque nous nous égarons, nous allons loin de Dieu, Il est prêt à nous pardonner si nous revenons à lui, si nous demandons pardon. Et donc, ce prophète doit souffrir les écarts de sa femme, comme ses adultères, comme l'Éternel souffre de l'infidélité de son peuple. Donc Dieu prévient, verset 4, plaidez contre votre, du chapitre 2, contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa figure les signes de ses prostitutions et de son sein les signes de ses adultères. Sinon, je la déshabille entièrement, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable au désert, je la fais devenir comme une terre aride, je la fais mourir de soif, et je n'aurai pas compassion de ses fils, car ce sont des fils de prostitution. Et puis, un peu plus loin, elle poursuivra ses amants, elle ne les atteindra pas, elle les cherchera, elle ne les trouvera pas, puis elle dira, « Eh bien, je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Et donc, c'est... Dans cette punition de Dieu, dans cette prophétie, il y a toujours cet espoir de retour vers Dieu de son peuple. Il y a ça, donc c'est malheureusement, en dépit de ces gestes d'amour, Israël va continuer à s'éloigner de Dieu et va partir, et va être jugé par l'exil en Assyrie. Il y a un autre chose intéressante, dans le chapitre 11 de ce prophète, là aussi il a 14 chapitres comme Zacharie, il a chapitre 11, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal. » C'est intéressant que il y a eu un autre Osée en la personne de Jésus. Et dans Matthieu 2,15, Matthieu cite ce verset comme une prophétie de ce que Jésus va devoir faire. Matthieu 2,15, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc c'est intéressant, c'est quelque chose, si on n'avait pas le soutien, le support du Nouveau Testament, on hésiterait peut-être à faire ce rapprochement avec le fils qui est appelé hors d'Égypte. Or, c'est la Bible elle-même qui fait ce commentaire, qui nous rappelle que c'était une prophétie qui a été accomplie dans la vie de Jésus. Un verset clé. Toujours le Seigneur qui nous rappelle à revenir à lui, c'est le chapitre, dernier chapitre 14, verset 3. On peut lire à partir du verset 2. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Apportez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Ça, c'est toujours une invitation que Dieu nous donne. À tout moment, on peut lui demander pardon, lui se repentir et revenir à lui. Il est toujours prêt à accueillir le fils prodigue qui s'est éloigné. Et donc, quelqu'un a fait remarquer qu'il y a deux sections, deux parties. Les trois premiers chapitres, il y a une femme adultère, Gomer, et son mari qui est fidèle, c'était Osée. Et la deuxième section, ça parle donc d'Israël, une nation infidèle, chapitre 4 à 14, et d'un Dieu fidèle. Donc il y a vraiment ce parallèle entre la femme adultère et Israël, la nation infidèle et rebelle, idolâtre. Et elle va subir le jugement, c'est les chapitres 9 et 10, mais toujours... les chapitres 10 à 13, on voit que Dieu est prêt à pardonner, et le dernier chapitre est, qu'on vient de lire, le chapitre 14, montre que Dieu est toujours prêt à pardonner. C'est un peu un aperçu du plan messianique et de la venue du Rédempteur pour tous les hommes. Joël, son nom, ça veut dire, elle, on reconnaît le mot Dieu, ça veut dire Jéhovah ou Yahweh est Dieu, l'Éternel est Dieu. Il est peu dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on parle pas de lui, mais dans le Nouveau Testament, on le cite souvent, comme dans le livre des Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, versets 16 à 21, chapitre 2 du livre des Actes. Dans les derniers... Mais c'est lorsque les gens pensaient que les apôtres étaient sous, et Pierre leur dit... C'est page 133 dans la deuxième partie. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'est seulement 9 heures du matin. Ces gens ne sont pas sous, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, ce sont des citations du chapitre 3 de Joël dans la Bible française. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Il prophétise, il parle souvent de ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Les premiers chapitres, il en parle comme d'une chose passée. Il a Dieu lui fait dire, racontez-le à vos fils, chapitre 1 de Joël, verset 3. Racontez-le à vos fils et que vos fils le racontent à leurs fils et leurs fils à la génération suivante. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne et pleurez, etc. Il reprend... Il décrit vraiment la misère qui est arrivée sur la terre, sur son peuple. Et on n'est pas exactement sûr de ces traductions-là. On a parlé de chenille, de sauterelle, de grillon, de criquet. Les mots en hébreu, il y a une petite note dans la Bible à la colombe, c'est le gazam, l'arbé, le yélek, le basil. Et on ne sait pas si c'est des noms de larve de la même sauterelle à différentes étapes de son développement, ou si ce sont des insectes différents, mais le résultat, c'est que ces bêtes mangent tout, et que ce que les premiers laissent, il y a une deuxième vague qui vient manger, et ainsi de suite. Donc il reste plus rien pratiquement. Quand j'étais gosse, j'ai habité 2 ans en Afrique, et je me rappelle avoir vu des nuages de sauterelles attaquer les jardins et les récoltes. Et c'est vraiment impressionnant de voir ça fait beaucoup de bruit, c'est un nuage noir de bêtes qui mangent tout et qui arrivent et qui... Et c'est cette image très forte que Dieu a donnée au prophète pour dire à son peuple qui connaissait ça, que parce que vous faites... Vous êtes infidèle, vous ne vous occupez pas de moi, vous allez être victime d'une invasion terrible. Et puis plus loin, il parle aussi de... Donc lui, il parle de... Israël va être victime de ces invasions historiques, Mais Judas va être également frappé par la sécheresse. Ça, c'est les versets 13 à 20. On ne va pas le lire, mais c'est toujours dans ce premier chapitre. Il y a d'abord les sauterelles, maintenant c'est la sécheresse, le feu qui brûle tout. Le feu, la fin du verset chapitre 1, le feu a dévoré les pâturages du désert. Et puis, à partir du chapitre 2 et 3, on voit le futur de ce jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour où Dieu va venir juger la terre. Il y a eu un jugement sur Israël et sur Juda, mais il va y avoir aussi un jugement futur, non seulement sur Israël et Juda, mais sur toute la terre. Donc ça, c'est le prophète Joël et cette effusion d'esprit, le chapitre 3, où là aussi, il y a toujours la grâce. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré et il y aura des rescapés. Donc Dieu sait qu'il y aura un reste de son peuple qui sera sauvé. On voit à la fois le peuple d'Israël et de Juda, mais aussi tous les croyants, toute la terre. Donc c'est une prophétie qui parle de l'époque historique de ce prophète, mais aussi et de l'exil, mais aussi du jugement des nations à la fin des temps. Le prophète Amos, lui, il est de Juda, du sud, mais il va prophétiser pour le royaume du nord. C'était simplement un paysan. Il était éleveur de Tekoa et il a exercé son ministère au temps du roi Ozias, qui était le roi de Juda et qui correspondait aussi au temps du roi de Jéroboam II. Pardon. Et donc c'était comme un berger, il cultivait des arbres. Des sycomores, ça c'est au chapitre 7, verset 14, je crois, dans mes questions. Il s'occupait de bœufs et il a beaucoup d'allusions aux cultures, à l'élevage dans ses prophéties. Son nom, ça signifie porteur de fardeau. Et c'est un peu sa vocation. Il devait annoncer la justice divine face à l'infidélité du peuple. Il va proclamer aussi la colère de Dieu sur six nations voisines d'Israël. Puis il va parler beaucoup sur le jugement de Juda et d'Israël, le royaume du Nord. Il a un verset très important, Amos 3, 7. On peut lire à partir du verset 1 du chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos ennemis. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il les cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il du sol sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on du cor dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Et donc, ce passage un peu difficile à comprendre, le fait que s'il arrive un malheur dans une ville, l'Éternel en est l'auteur, ça veut dire qu'en fait, il laisse le mal des fois arriver. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret au prophète. Et quand il est question des serviteurs, les prophètes, c'est pas de n'importe quelle personne qui se dit prophète, mais c'est des prophètes qui acceptaient d'être punis de mort si leur prophétie ne se révélait, ne pas se réaliser. Et ça, c'est pour dire qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que tout ce qui peut se passer, c'est déjà au niveau biblique, au niveau spirituel. On doit pouvoir trouver une indication dans la Bible. Parce que la parole, l'Éternel a déjà révélé ses secrets, peut-être de façon plus ou moins claire. Mais c'est bon de savoir que Dieu ne fait pas des choses bizarres qui seraient en rupture avec tout ce qu'on peut lire dans la parole. Et ça, c'est important, ça peut préserver de certaines hérésies ou de certaines doctrines farfelues. Donc, cet Amos, il va avoir 8 prophéties dans les deux premiers chapitres, sur les nations, c'est-à-dire les peuples qui entourent Israël. Les chapitres 3 à 6, ça va être la dénonciation des péchés passés, présents et futurs d'Israël. Puis il va avoir 5 visions, les chapitres 7 à 9, concernant les jugements divins futurs. Et puis encore une fois, la fin, les versets à partir du chapitre 11, du verset 11 du chapitre 9, jusqu'à la fin du chapitre 9, il va y avoir encore des promesses concernant la restauration d'Israël après le jugement. En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en réparerai les brèches, j'en releverai les ruines et je rebâtirai comme elle était autrefois, etc. Et donc toujours ce jugement, mais toujours cette annonce de l'amour de Dieu manifestée par des promesses de restauration. Le suivant, le quatrième, c'est Abdias. Lui, il va prophétiser contre une nation, la nation d'Édom. Édom, c'est pas les Dom-Tom. C'est la nation qui descendait de qui, Édom? C'était du frère de Jacob qui s'appelait Ésaü. Ce prophète n'est mentionné ailleurs nulle part dans l'Écriture. Le livre est si court en fait qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Ça fait partie des 5 livres qui n'ont qu'un seul chapitre dans la Bible. Jude, qui d'autre? 2 Jean et 3 Jean. Abdias, et puis il y en a un autre qui m'échappe maintenant. Ça reviendra peut-être. Voilà, donc c'est très court et ça parle de Édom. Le cadre géographique Édom, en fait, dans Deux Rois 14, 7. Deuxième livre des Rois, chapitre 14, verset 7. Il est question de la vallée du sel. C'était Amatsia, un roi de Juda, et il est dit au verset 7, il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il s'empara de Séla. Il l'appela du nom de Yoctéel, qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Et au chapitre, donc dans ce passage de Abdias, il est question de, dans les versets 3 et 4, d'une demeure. L'insolence de ton cœur t'a trompé, verset 3 du premier chapitre, du seul chapitre. Toi qui demeures dans les creux des rochers dont l'habitation est élevée et qui dis en toi-même, qui me fera descendre jusqu'à terre? Quand tu prendrais de la hauteur tel un aigle, quand ton nid serait placé parmi les étoiles, je t'en précipiterais. On pense qu'en fait, ça fait référence à la même ville de Séla, qui était connue aussi plus tard sous le nom de Petra, qui était la capitale d'un peuple d'origine arabe, les Nabatéens. Et c'est une cité qui a été retrouvé seulement en 1812. C'était une cité perdue. L'archéologie confirme toujours la Bible. Et cette cité, en fait, on voit souvent des photos. Elle est au fond d'une vallée. Et il y a des temples qui sont creusés à même la roche, une roche rose. Et on voit des photos, des fois, de ces roches façonnées par l'érosion, par l'eau et le vent, de toute beauté. Et c'est la ville de Petra. Maintenant, ça se trouve en Jordanie. Si vous faites un voyage en Terre Sainte, il faut aller en Jordanie pour voir la cité de Petra. Et donc, c'est sur cette ville d'Édom que Abias a prophétisé. Là aussi, au verset 17 à 21, les 16 premiers versets, c'est une défaite d'Israël. Il y a un jugement de ce royaume d'Édom. Il y a une prophétie sur le jour de l'Éternel, verset 15. Le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Et puis, à partir du verset 17, c'est la restauration d'Israël qui va battre Édom. Maintenant, on va passer au cinquième, le prophète Jonas. Lui, on le connaît mieux parce que il y a une histoire de baleine. Et en fait, il n'est pas question de baleine, mais de grands poissons. On l'a appelé des fois Jonas le prophète malgré lui. Son nom, ça signifie colombe en hébreu. Et lui, il était tout prêt à annoncer la paix de Dieu, l'amour de Dieu, mais à tout le monde, sauf aux ennemis de son peuple, les Ninivites, les gens de l'Assyrie, les habitants de Ninive. À la fin de ce petit livre, il est question de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. On pense que peut-être ça parle d'enfants, mais on pense qu'il y avait au moins 120 000 personnes, et peut-être si c'était seulement les enfants, peut-être qu'il y avait près d'un million de personnes. Donc c'était une grande ville. Et Jonas reçoit ce message de la part de Dieu d'aller mettre en garde. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Là encore, on voit que Dieu est prêt à annoncer à des gens qui sont méchants, qui le rejettent, qu'il va se fâcher contre eux, dans l'espoir qu'ils vont se convertir et revenir à Dieu. Mais Jonas, lui, il veut surtout pas, il peut pas sentir, il y a du racisme contre les Ninivites, et il veut surtout pas aller là-bas. Donc il essaye d'échapper à Dieu. Il prend un ticket sur un bateau qui va dans la direction opposée. Mais vous connaissez l'histoire, c'est l'Éternel qui arrive à faire sa volonté, il fait souffler un grand vent sur la mer, le navire menace de se briser, les marins ont peur, ils commencent à prier, ils jettent du matériel pour alléger le bateau. Pendant ce temps-là, Jonas, lui, descend au fond du bateau, et il s'endormit profondément, et le chef du bateau lui dit « Mais pourquoi tu dors, toi, en ce moment, tu devrais invoquer ton Dieu, peut-être que ce Dieu nous sauverait. » Après avoir dit ça, ils disent, on va voir qui est responsable de notre malheur, parce qu'ils pensent que c'est tellement fort comme tempête que c'est une vengeance de Dieu. Et en fait, il se trouve que verset 7, en tirant au sort pour trouver qui est responsable, on sait que c'est quelquefois une façon qu'on trouve dans la Bible, pas que ce soit nécessairement inspiré par Dieu, mais en tirant au sort, on peut voir ou suspecter quelqu'un d'être victime de la colère de Dieu. On pense à Achan dans le livre avec Josué, qui avait caché des choses qu'il fallait vouer à l'interdit, donc jeter. Et que en divisant les troupes et les tribus, on était finalement, Dieu l'avait désigné. Et les marins demandent à Jonas, mais qui tu es, quoi ? Ils ont très peur, qu'as-tu fait ? Ils lui disent, et il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. Là, la terre ferme n'aurait bien plu. Et ils leur disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer la mer ? Et c'est là que lui-même dit, jetez-moi dans l'eau, et là, le calme, c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et ils essayaient de se sauver, mais finalement, ils prient à Dieu, ils invoquent l'Éternel, ne nous charge pas d'un sang innocent, et ils jettent le brave Jonas dans l'eau, et là, la mer se calme instantanément. Ça fait penser un peu à Dieu, à Jésus qui calme la tempête sur le lac de Galilée, c'est aussi instantané. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Et là, Dieu va continuer à diriger ce prophète malgré lui pour l'envoyer là où il veut, et il fait venir ce grand poisson. Donc ce n'est pas une baleine, contrairement à la légende, c'était peut-être de la famille des baleines, mais on dit, mais c'est pas possible d'avaler, les baleines ont des fanons, des trucs qui leur bouchent la mâchoire. Mais c'est un grand poisson qui engloutit, et lui va demeurer dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Et là, dans ces conditions, Jonas va prier, il invoque l'Éternel qui lui répond, « J'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix, tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers et les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi et je disais, je suis chassé loin de tes yeux, verset 5. » Puis, finalement, l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Une drôle d'histoire. Et on pense que c'est un miracle improbable pour la plupart des gens. Mais il y a des histoires contemporaines, assez récentes, où des marins ont fait des séjours de la sorte dans le ventre d'un poisson, on les a retrouvés. Apparemment, il est possible de survivre avec des brûlures, bien sûr, de l'acide, etc. Mais il peut y avoir des poches d'air. Et la vraie garantie de l'authenticité de cette histoire, c'est le fait que Jésus l'a utilisé. Ça, c'est le vrai certificat d'authenticité. En disant que comme Jonas avait été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, lui aussi allait passer 3 jours dans les entrailles de la terre. On peut voir ça dans Luc 11, je crois. Ou Matthieu 12, 38. Quelques-uns, chapitre Matthieu 12, 38, c'est page 14 dans la deuxième partie de la Bible. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Ingération mauvaise et adultère, recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. » Donc Jésus utilise cette histoire de Jonas, ce miracle du poisson. Mais le vrai miracle, en fait, c'est surtout le fait que toute la ville va se convertir. Il va y avoir un réveil qui va durer près de 150 ans. On verra dans l'introduction du prophète Nahum que ça ne va pas durer. Mais ça nous montre encore que Dieu est toujours prêt à faire grâce à celui qui se repent. Et Jonas est un peu drôle d'une mauvaise façon, dans le sens qu'il il ne se réjouit pas que les gens soient sauvés de cette façon. il fait la tête, il obéit finalement, il alla à Ninive, verset chapitre 3, il criait ces mots encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Et là, verset 5 du chapitre 3, les gens de Ninive crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi aussi, etc. Et cela, alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ça, c'est une façon de parler, parce que Dieu ne change pas d'avis, mais son changement de comportement est tellement spectaculaire que les gens qui décrivent ce changement d'attitude disent que c'est comme si Dieu a regretté le mal qu'il avait résolu de leur faire et qu'il ne le fait pas. Et donc Dieu pardonne et sauve cette ville, ces hommes. Mais verset 4, c'est surprenant, cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Ça m'a toujours surpris, cette façon de voir quelqu'un qui croit en Dieu, mais il était tellement pris par l'idée qu'en fait le salut c'était pour les Juifs, pas pour les nations, que ça le rend malade. Et il dit même, il reproche à Dieu, « Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. » C'est-à-dire qui ne fait pas nécessairement le mal. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher. » Et là, il y a cet épisode un peu particulier où il fait très chaud, Jonas est assis sur une colline et il regarde... Il s'est fait une hutte, il regarde pour voir ce qui va arriver à la ville. Dieu fait pousser une plante, un ricin, qui donne de l'ombre sur la tête de Jonas pour lui ôter sa mauvaise humeur. Et Jonas est heureux parce qu'il est à l'ombre. Et puis le lendemain, Dieu fait disparaître cette plante qui protégeait Jonas du soleil en faisant intervenir un ver qui va manger la plante de l'intérieur et le ricin va sécher. Puis il y a un vent d'est étouffant et Jonas va faire une insolation. Il va dire « La mort m'est préférable à la vie. » Et là, Dieu lui fait une petite leçon. « Pourquoi est-ce que tu te fâches à cause de cette plante ?» Et il lui dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette ville où il y a tant d'habitants. » Donc, on voit quelqu'un qui est utilisé par Dieu, malgré le fait que cette personne n'a pas une grande compassion pour les personnes que Dieu sauve par son intermédiaire. Alors, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions, mais je pense que c'est toujours mieux d'aimer les gens à qui on annonce le message. Mais ça montre que Dieu, il a un message à toute épreuve. Et que même un prophète récalcitrant peut être utilisé par Dieu. Le prophète Michée, lui, était un contemporain d'Ésaïe. C'est le sixième. Son nom signifiait « qui est semblable à l'Éternel ». Ils ont des messages assez proches l'un de l'autre. Ésaïe, lui, venait d'une famille de la noblesse, il était d'origine aristocratique. Par contre, il parlait souvent de choses internationales dans ses prophéties. Michée, celui d'une famille modeste. Il fait connaître le message de Dieu aux gens du peuple. Il est cité par Jérémie, il est cité par Jésus dans Matthieu 10, 35, 36. Il a été témoin à distance puisqu'il était dans le royaume de Juda, des problèmes de Samarie qui a été prise pendant sa vie en 721 par les Assyriens. Et il a prophétisé en parlant des fois au royaume du nord, à Israël, et aussi au sud, à Juda. Encore une fois, un tiers de la prophétie, c'est pour dénoncer les péchés de ses compatriotes. Un deuxième tiers, c'est l'annonce de la punition de Dieu. Et une troisième partie, c'est la restauration de la nation lorsque le châtiment aura été exercé. Il dresse un procès de l'Éternel contre le peuple infidèle. Il parle d'une religion qui est en désaccord avec la nature. Il parle des prêtres qui ne sont pas selon Dieu. La menace de l'Assyrie, c'est une punition de Dieu pour le peuple d'Israël du Nord. Mais il entrevoit le règne messianique, la justice, la paix qui reviendra. Et ça, on voit ça à partir du chapitre 4, des promesses de restauration. Il est bien connu pour une prophétie concernant la ville de Bethléem. Bethléem, chapitre 5, Michée, chapitre 5, verset 1. Toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité, etc. C'est la prophétie de la naissance de Jésus à Bethléem, en Bethléem Ephrata, la ville même. Un verset qu'on commande souvent à la période de Noël, et c'est un verset qui est cité dans Matthieu 2:6 pour rappeler cette prophétie de la naissance du Messie à Bethléem. Un autre verset clé, c'est le verset 8 du chapitre 6. On t'a fait connaître, page 920, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les gens aiment bien avoir des listes de choses à faire. Je me souviens de parler avec des musulmans, mais ils veulent savoir quels sont les rites, les rituels à suivre, comme eux, ils doivent faire un pèlerinage à la Mecque, ils doivent donner l'aumône aux pauvres, ils doivent faire le ramadan, le jeûne du ramadan. Et ils aiment bien avoir toute une liste de choses précises qu'on peut faire et puis cocher avec un crayon. Mais là, c'est un très beau résumé de comment Dieu veut que nous vivions. C'est qu'on pratique le droit, la justice, et qu'on respecte la justice, qu'on soit juste avec les autres, que l'on aime la loyauté, qu'on reste fidèle au Seigneur et qu'on marche humblement avec Dieu. Donc j'aime bien l'accent qui est remis encore sur l'humilité dans laquelle on doit marcher avec Dieu. Si on suit ce programme, c'est ce qui est bien, c'est ce que Dieu nous a fait connaître. C'est un verset, la loyauté, la miséricorde, la justice, et marcher humblement. Il y a trois sections. Les deux premiers chapitres, c'est le jugement d'Israël et de Juda. Chapitres 3 et 5, c'est les jugements des chefs, les responsables religieux et politiques avant la venue du Messie pour libérer Israël. Et la dernière section, chapitres 6 et 7, il est question de toutes les nations. Écoutez, montagnes et collines. Il se termine à la fin. Qui est Dieu? Verset 18 du chapitre 7. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. J'ai souligné ça dans ma Bible. Il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Encore une fois, un petit prophète qui annonce ce grand message de la fidélité de Dieu à ses promesses, de son désir de pardonner, du jugement nécessaire en raison du péché, mais toujours en vue de restaurer. C'est comme un leitmotiv, c'est comme une chose qui est répétée sans cesse. Nahum, lui, il va s'adresser à Ninive et à la Syrie. On pense qu'il y avait la ville ou le village de Capernaum du temps de Jésus, et on pense que peut-être c'était le village d'où il était originaire. C'est possible, mais c'est pas sûr. Mais il était on pense que le fait, il est dit au tout début, menace sur Ninive, livre de la vision de Nahum l'Elkoshite, que c'était le nom à l'origine de Capernaum, et qu'on l'aurait rebaptisé ensuite en son honneur. Il y a des descriptions très fortes de la colère de Dieu. La première partie, c'est le décret divin que Dieu va détruire Ninive. Chapitre 2 et les 13 premiers versets, pratiquement, c'est la description de la destruction. Et le reste, c'est la destruction qui va arriver, qui n'est plus remise en question. Les premiers versets de ce petit livre montrent un Dieu qui est un Dieu qui doit nous faire peur, qui doit inspirer notre respect, qui est capable d'une colère terrible. Verset 2, on va lire ensemble. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse certes pas impuni. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel dépérissent. La fleur du Liban dépérit. Il fait trembler les montagnes et les collines vacillent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Il brise les rochers. Une description terrible et brutalement, l'autre aspect de Dieu, l'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Mais, encore une fois, avec des flots qui débordent, il détruira totalement cet endroit et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Autrement dit, pourquoi être ennemi de Dieu? On peut voir sa colère contre ses ennemis et sa bienveillance, au contraire, pour ceux qui viennent à lui, même ceux qui se repentent. Et ça va être... Il y a eu le réveil causé par l'obéissance forcée du prophète Jonas, qui a provoqué un réveil. La ville de Ninive a été sauvée pendant 150 ans. Et puis, lorsqu'ils se sont... Ils ont résolu de s'en prendre au peuple de Dieu. Dieu a promis par Nahum une colère terrible contre eux. Le prophète Habacuc, son nom, ça vient d'un mot qui veut dire embrasser. Il y a une étroite liaison avec Dieu. Et lui, c'est si... Jonas était le prophète récalcitrant. Habacuc, c'est le prophète perplexe. Il est perplexe, il ne comprend pas. il parle contre Babylone. Il parle pour le royaume du sud, pour Juda. Et il sait qu'il y a une menace des Chaldéens, c'est-à-dire des Babyloniens, qui vont emmener finalement le royaume de Juda et de Benjamin en exil à Babylone. Et il ne comprend pas comment Dieu peut utiliser des ennemis pour juger son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu emploie un peuple aussi méchant, cruel que les Babyloniens pour châtier son peuple? Et on peut regarder, voici la menace au début du chapitre, du livre, chapitre 1. Voici la menace dont le prophète Habacuc eut la vision. « Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Tolères-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi, il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. Autrement dit, les mauvais triomphent, les justes sont victimes. Voyez, verset 5, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croyez pas si on l'a racontée. C'est Dieu qui parle. Voici, je fais surgir les Chaldéens, les Babyloniens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse des étendues de pays pour s'approprier des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable, il établit de lui-même son droit et sa suprématie, ses chevaux sont plus légers, etc. Tout ce peuple arrive pour la violence, il entasse des captifs comme du sable, c'est lui qui se moque du roi, les princes sont pour lui un jeu, il amoncelle la terre et la prend d'assaut. Puis son ardeur se renouvelle, il passe et se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Et donc, Dieu utilise des ennemis pour châtier son peuple. On peut toujours se demander, des fois dans nos vies, si c'est pas ce que Dieu fait, des fois dans nos difficultés, si c'est pas parce qu'on a besoin d'être repris, que Dieu utilise même des choses qui ne sont pas de lui pour nous faire crier vers lui. Tes yeux sont trop purs, verset 13. Sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traites? Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains comme des poissons de mer, comme des bestioles qui n'ont pas de maître. Ça c'est drôle, hein, comme des fourmis. Tous ensemble, ils les enlèvent à l'hameçon, ils les tirent dans son filet, ils les accumulent dans sa nasse. Alors il est dans la joie et l'allégresse, alors il offre un sacrifice à son filet, du parfum à sa nasse, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture copieuse, alors va-t-il vider son filet et continuer sans pitié à massacrer des nations? Mais Dieu répond et il va dire que il va finalement châtier les Babyloniens. Il va utiliser Babylone pour remettre Israël, Jérusalem et Juda dans le droit chemin. Mais il va aussi se retourner contre ces hommes méchants qui sont contre lui et contre son peuple. Et il va les punir. Et il y a un verset qui est le plus célèbre de Habacuc, c'est verset 2, chapitre 2, verset 4. « Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et ce verset est repris trois fois dans le Nouveau Testament, dans Romains 1, 17, par Paul aussi dans Galates 3, 11, et par l'auteur de Hébreux, peut-être Paul aussi, Hébreux 10, 38. À trois reprises, le verset est cité. Dans Romains, il est question d'être juste. Le juste vivra par la foi. Et c'est le premier commentaire, en quelque sorte, Et c'est le verset qui avait frappé Martin Luther quand il cherchait à comprendre la Bible. Et il vivait, c'était un moine catholique qui ne pouvait pas tolérer le fait que la hiérarchie catholique demandait de l'argent pour que les péchés soient pardonnés. Il y avait tout un commerce qui s'était établi. Et il a réalisé que c'est la foi qui justifiait. Le juste vivra par la foi. C'est d'avoir foi en Dieu et en sacrifice de Jésus-Christ qui va nous rendre acceptables à Dieu. Ça, c'est le premier commentaire dans Romains. Donc, ça parle du juste. Galates, lui, ça parle de vivre. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Et tout le contexte parle de comment il faut vivre, comment il faut marcher avec Dieu. C'est comment il faut vivre. Et puis le dernier commentaire, c'est, on va parler de foi, le juste vit par la foi. C'est dans Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et c'est juste avant le chapitre 11 de Hébreux, qu'on appelle des fois le grand chapitre de la foi, qui cite tous les exemples de personnes qui ont vécu par la foi, en commençant par les patriarches, Abraham et tous les grands hommes de la Bible ont vécu par la foi. Et donc le premier problème d'Habacuc, c'était pourquoi est-ce que le méchant triomphe du juste, et Dieu lui a dit, je vais utiliser ces méchants pour juger mon peuple. Le deuxième problème d'Habacuc, c'était pourquoi est-ce que quand le méchant triomphe, Dieu, tu restes silencieux, et Dieu va lui répondre en disant qu'il y a 5 malheurs qui vont fondre sur Babylone. Ça, c'est le reste de l'histoire. Et il termine par un hymne à la grandeur de Dieu. L'Éternel, verset 19 du dernier chapitre 3, « L'Éternel est mon Seigneur et ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. » C'est un psaume à partir en fait du verset 3. « Sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre. » Et ça se termine par ce passage. Des fois, on se rappelle d'avoir des pieds comme une biche sur des hauteurs. C'était le titre d'un recueil de pensées et de versets chrétiens bien connus. Mais c'est là, l'Éternel mon Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. En lui, j'ai la force, j'ai la stabilité et je marche dans les hauteurs. Je ne suis pas dans le quotidien, bassement matériel, avec Dieu, j'ai une élévation spirituelle, j'ai une élévation de mes pensées, et je suis stable. C'est un très beau, très belle description. Sophonie, on sait un peu plus son pédigré, parce que il est dit au premier verset de livre, parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donc on a une bonne précision, et c'est pas courant dans les petits prophètes, mais là on a vraiment une description de son arrière-plan familial et même du temps des rois pendant lesquels il a prophétisé. Lui, il va parler du jour de l'Éternel. C'est ce que le Nouveau Testament appelle le jour du Seigneur. C'est une aperçu de la deuxième venue de Jésus-Christ sur terre quand il va juger les nations avant d'instaurer le règne messianique. C'est la bataille d'Armageddon, c'est la victoire remportée dans la vallée de Jézréel. Le nom du premier enfant du prophète Osée, on l'a vu tout à l'heure. Et la colère qui va tomber sur Ninive pendant son époque, ça va être une préfiguration de la colère sur les nations. Le verset clé, c'est peut-être le verset 3 du chapitre 2. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Donc une prophétie de ceux qui seront éviteront peut-être la grande tribulation. Un verset qui est bien connu, c'est aussi le chapitre 3, verset 17. Ça, c'est après des annonces de cette punition de ce jour de l'Éternel. Sophonie parle au royaume du sud, à Juda et Jérusalem. Après avoir averti Jérusalem, il dit que c'est une ville pleine d'oppresseurs, verset 2 du chapitre 3, elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Il va faire une promesse, « Je rendrai pures les lèvres des peuples », verset 9. Et puis, le verset 17 est un très beau verset. En ce jour, verset 16, « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. » Alors, le contexte est clair, c'est dans la ville de l'Éternel à Jérusalem, mais ça s'applique donc au peuple de Dieu. Et à travers ça, on peut, je crois que sans trahir la prophétie et le texte, penser que ça s'applique aussi à l'Église et même à chaque croyant, chaque personne qui se confie en l'Éternel, l'étendre et de penser que l'Éternel, mon Dieu, est au milieu de moi un héros qui sauve. Il fait de moi sa plus grande joie. Il garde le silence dans son amour pour moi. Il a pour moi une triomphante allégresse. C'est des paroles. Cette promesse même faite à Jérusalem est merveilleuse, mais quand on voit qu'on peut raisonnablement l'appliquer à tout croyant, à l'Église, c'est une promesse merveilleuse. Dieu est là et il se réjouit de chacun de ses enfants, en chacun de ses enfants. C'est une merveilleuse promesse. Le prophète Agée, là on passe aux trois derniers prophètes, et c'est des prophètes qui ont écrit des prophéties après l'exil. Donc le prophète Agée, lui, il prophétise... historiquement, en 538, il y avait eu l'édit de Cyrus qui autorisait les Juifs de Babylone à revenir reconstruire le temple. Ça, c'est dans Ésaïe 44, notamment. Avec Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le sacrificateur, un premier contingent est venu rétablir l'autel. On avait parlé de ça en regardant Esdras. Ils avaient entrepris la reconstruction du temple, mais avec la menace des habitants du pays, ils avaient interrompu les travaux pendant 12 ans. Et c'était grâce à l'encouragement du prophète Agée et Zacharie aussi que finalement le deuxième temple allait être fini en 516 avant Jésus-Christ. On ne sait pas si Agée avait vu le temple de Salomon, s'il avait vu la destruction du temple en 586 à Jérusalem. Mais très tôt il s'était associé avec Zacharie, qui était un jeune homme à l'époque, qui était plus jeune que lui, et Zacharie allait poursuivre cet encouragement pour la reconstruction du temple. Ça, c'est le thème encouragement. Le chapitre 2 au dessus, il y a marqué encouragement aux bâtisseurs du second temple. Il y a quelques versets intéressants entre... En anglais, il s'appelle Haggai. Verset 4 du chapitre 2. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Travaillez, car moi, je suis avec vous. Avec la parole que je vous ai donnée, mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte. Verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi. Et verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Donc un encouragement pour ceux qui allaient rebâtir le second temple, mais aussi, je crois, un encouragement pour tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. On doit se fortifier en Dieu, sachant que c'est lui qui travaille, il est avec nous, nous avons sa parole, son esprit, on n'a pas à craindre, on a ses ressources, l'argent est à moi, l'or est à moi, et l'œuvre qu'il va faire sera glorieuse. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans Zacharie. Le prophète Zacharie, encore une fois, c'est pas un petit prophète dans le sens où ses prophéties seraient peu importantes. Au contraire, il y a des prophéties spectaculaires sur les deux venues du Messie. La première, c'est lorsqu'il est venu comme un Messie souffrant dans l'humiliation. Et puis il y a aussi une description de son retour, la deuxième venue du Messie, dans la gloire. Le nom de ce prophète, c'est intéressant, ça veut dire « l'Éternel s'est souvenu ». L'Éternel s'est souvenu, après les 70 ans de captivité de Juda en Babylone, jour pour jour, Dieu s'est souvenu de son peuple, pardon, et les a ramenés à Jérusalem. Il encourage aussi les personnes qui sont revenues à continuer à finir le temple. Ça, c'est le verset 4, chapitre 4, versets 8 et 10. C'est là qu'on trouve dans ce chapitre 4, page 934, chapitre 4, verset 6. Dieu encourage Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Zorobabel se retrouve devant le temple en ruine, et il ne sait pas par où commencer, et Dieu lui dit, c'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il a aussi ce verset qu'on cite des fois sans trop savoir où il est. Qui a donc méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Et il y a une prophétie sur les oliviers. Et ça sort, ça, donc il y a une prophétie sur la reconstruction du temple et sur la fin des temps avec un temple reconstruit. On voit deux sections, trois sections, je veux dire. Les six premiers chapitres, c'est la perspective sur la future situation, le futur d'Israël. Les chapitres 7 et 8, il y a quatre messages qui parlent du rétablissement de Jérusalem. Il y a l'appel aux jeunes. Et finalement, du chapitre 9 au verset 4, au chapitre 14, il y a d'abord le rejet du Messie, 9 à 11, et puis le retour du Messie, chapitre 12 à 14. Donc un prophète clé pour comprendre les développements de la fin des temps, avec des recoupements dans Daniel, dans l'Apocalypse, dans Matthieu 24, le chapitre de Jésus, où Jésus parle de la fin des temps. Et puis on arrive finalement au dernier des petits prophètes, Malachi. Malachi, lui, c'est... il parle à Israël. Son nom signifie « le messager » ou « mon messager ». Il va faire un peu le lien avec le Nouveau Testament. Pendant 400 ans, il va y avoir un silence où Dieu ne va plus parler à son peuple. C'est un peu déprimant. C'est comme si Dieu a décidé de traiter son peuple rebelle avec le silence. Et jusqu'à ce qu'il prophétise de nouveau par Zacharie, il va y avoir le silence. Il va prophétiser par le dernier prophète. On dit souvent que c'est peut-être Jean-Baptiste. C'est lui qui va être le prophète. Et il parle de ce dernier prophète Malachie, parle un peu, fait un peu le lien avec le Jean-Baptiste dans le verset 1 du chapitre 3. Il dit: voici que j'enverrai mon messager, dans Malachie 3:1, il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc j'enverrai mon messager. C'est repris ça dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 11, dans Marc 1, dans Luc 7. Et ce messager, c'est Jean-Baptiste qui va finalement revenir. Il parle à des gens qui se contentaient d'une religion superficielle. Ils n'obéissaient pas aux règles de la loi de Moïse, les sacrifices. Au début, au chapitre 1, versets 6 à 14, il se dit en fait que vous ne faites plus les sacrifices comme il faut. Vous procédez à des mariages mixtes, chapitre 2, versets 11 à 16. Et puis vous ne payez, vous volez l'Éternel des armées. Et là, les gens lui disent: mais comment est-ce qu'on te vole? Et c'est là qu'il parle de la dîme qui n'était pas versée comme il fallait. Et c'est dans ce passage de Malachie 3:10 qu'il y a ce... on peut commencer à verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Toujours cette promesse, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? C'est comme s'ils pensent ne pas avoir besoin de demander pardon à Dieu. Verset 8, un être humain peut-il frustrer Dieu ou voler Dieu? Car vous me frustrez et vous dites: en quoi t'avons-nous frustré? Comment est-ce que tu peux dire qu'on t'a volé? On ne te vole pas. Et Dieu répond: c'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Et donc cette prophétie, cette prescription de la dîme, et où Dieu nous demande à son peuple de le mettre au défi dans ce domaine uniquement, de voir que si on obéit à ses prescriptions concernant la verser la dîme, qui est une façon de reconnaître que tout ce que nous avons en fait ne nous appartient pas mais appartient à Dieu, que lorsqu'on ne fait pas ça, c'est comme si on vole Dieu. C'est comme si on dit: non, l'argent que j'ai là, c'est de l'argent qui m'appartient, c'est pas à toi. Et Dieu dit: attends, ça, tout m'appartient. Donc vous me volez si vous ne me donnez pas la dîme. Et c'est vrai que c'est un principe biblique. C'est intéressant que ce soit un des derniers principes enseignés par l'Ancien Testament. C'est le fait que on ne peut jamais donner plus à Dieu qu'il ne nous donne. Et il nous met au défi, notamment dans ce domaine très pratique et très concret, de donner la dîme, c'est-à-dire donner de nos ressources, que ce soit de l'argent, du temps, pour le servir, pour se mettre à son service. Que si nous faisons ça, il est prêt à ouvrir les écluses du ciel. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des écluses, mais quand on les ouvre, l'eau coule abondamment parce qu'il y a une différence de niveau. Et là, c'est comme il y a cette promesse Et souvent, les gens ne font pas confiance à Dieu. Ils disent, je ne peux pas payer, je peux pas donner la dîme à l'église, je ne peux pas verser de mes ressources parce que j'ai ça à acheter, tout ça à faire, j'ai encore le loyer à payer, etc. Mais Dieu nous dit de donner d'abord cette dîme. Et encore une fois, dans le Nouveau Testament, il dit que c'est pas une règle de trois, c'est comme le cœur nous le met, comme Dieu le met sur notre cœur, mais ne pas voler Dieu. S'il nous demande de donner 20 euros ce mois-ci, si on n'en donne que 5 en disant je vais garder 15 pour faire quelque chose d'autre, même si c'est, il dit, vous me volez, alors que si vous êtes fidèle pour verser, moi je vais vous bénir. Et je ne sais pas où vous en êtes, c'est pas mon but, c'est quelque chose devant le Seigneur, mais je sais qu'en tant que jeune chrétien, j'étais aussi assez sceptique de dire j'ai besoin d'argent, j'ai une famille à élever, j'ai des traites, j'ai des dépenses, des factures, et puis il faudrait que je paye d'abord peut-être une dixième de mon salaire. Et en fait, en mon expérience, et je crois à l'expérience de beaucoup de ceux qui font confiance à Dieu dans ce domaine, c'est qu'effectivement Dieu bénit en retour, et c'est une façon dans laquelle il fait grandir notre foi. Et si vous n'avez jamais considéré la dîme comme une chose sérieuse, peut-être le Seigneur veut vous parler aussi par ce domaine. Là encore, Dieu, avec ce prophète, on parle des privilèges d'Israël, de la pollution d'Israël, et puis des promesses d'Israël s'ils reviennent à Dieu. Donc dans tous ces prophètes, encore une fois, on voit le jugement de Dieu nécessaire dans son amour pour nous faire revenir à lui. Et c'est en cela que c'est une prophétie merveilleuse, sans compter tout ce qui est prophétie de la fin des temps, qui nous donne une meilleure appréhension de ce que la Bible nous dit en recoupant les différents passages. Mais ces petits prophètes sont des prophètes très importants. Une chose qui est intéressante, c'est qu'ils sont rapides à lire. On peut lire facilement les petits prophètes, c'est très court. Si on étudie, on se lance dans l'étude du prophète Ésaïe, c'est 66 chapitres, très longs, compliqués, etc. Là, il y a de plus, on a vu, c'est 14 petits chapitres, ou alors même un seul chapitre. Et à chaque fois, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté dans son jugement. Et ça aussi, ça s'applique à nous personnellement dans notre vie. C'est valable aussi pour l'Église. Dieu reprend l'Église et il veut qu'elle soit un outil entre ses mains. Il est prêt à bénir si on revient à lui. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, vous voyez, encore une fois, c'est très important de bien comprendre la progression avec David, Salomon, la division du royaume, le royaume du nord, le royaume du sud, l'exil d'abord du royaume du nord, puis l'exil du royaume du sud, et les prophéties qui s'articulent autour de ces grands moments jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, 400 ans avant le début de notre ère. Question ?
J'avais une question. On a lu, je crois que c'est dans Amos, sur les révélations. Ça parlait des révélations.
Oui.
Et souvent, on entend que les gens disent qu'il y a des nouvelles doctrines révélées. Mais tout ce que Dieu nous dit, que Dieu voulait nous révéler, c'est dans la Bible déjà, non?
Il y a un passage qui permet de répondre de façon affirmative, c'est Hébreux 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes.
C'est où?
Hébreux 1:1. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers, il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Et là, il continue pour montrer la supériorité de Jésus. Mais là, il est bien question, les prophètes, c'est les mêmes prophètes que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ce genre de prophétie, on parle du don de prophétie dans le Nouveau Testament, mais c'est plus un don d'affirmation de ce qui a été déjà révélé que des nouvelles vérités qui seraient annoncées. Pour certains, il y en a encore qui s'appellent prophètes aujourd'hui et qui vont faire des révélations qui ne sont pas bibliques et qui sont des supercheries, qui sont des mensonges spirituels.
Donc tu utiliseras ces deux versets-là quand les gens te disent que Dieu a révélé.
Voilà, tu leur poses, tu leur demandes comment ils justifient ça avec ça, et là ils sont bien embêtés.
Il y a des églises où ils prophétisent, et en quelle langue.
Oui.
Et il y a d'autres personnes qui traduisent en français.
Oui.
Donc, mais.
Alors,
on a un doute sur ça, je ne sais pas.
Alors, il y a le don de prophétie, il y a le don des langues, il y a le don d'interprétation. Et dans le sens des... Ça, c'est dans les passages comme Romains, dans 1 Corinthiens 12 et 14, Romains, Éphésiens, il est question de ces différents dons. Certains pensent que ces dons étaient seulement pour la période apostolique au début de l'Église, je crois, et notre Calvary Chapel en général pense que les dons sont encore disponibles pour aujourd'hui. Mais par exemple, le don de parler en langue, c'est pour ça s'adresse à Dieu. Donc les dons des langues, c'est jamais Dieu qui va utiliser un don des langues pour parler aux gens. Alors il peut y avoir le don de prophétie, mais c'est plus généralement dans le sens d'exhorter que de dire maintenant il va y avoir un nouveau pays qui va surgir au milieu de l'Atlantique, ça va être le pays il va y avoir des dragons qui vont prendre le pouvoir sur toute la terre, ça c'est du baratin. Mais qui disent que on doit, mes enfants, prenez courage, persévérez, revenez à moi, que quelqu'un se sente inspiré de dire ça et à cœur de dire ça, c'est ce qu'on appelle le don de prophétie. Et une langue, un parler en langue, ça va être une adoration de Dieu. Et la traduction, la personne doit savoir si elle le fait, il doit y avoir une traduction, sinon ça ne doit pas se passer en public. Ça doit être quelque chose qui s'adresse à Dieu. Alors que souvent, quelqu'un va parler en langue, du charabia, et après quelqu'un va dire, mes petits-enfants, faites ceci. C'est faux, c'est dans l'autre sens.
J'entends une église, je vois à Paris, et la traduction c'était... Il y a quelqu'un dans cette église, Dieu lui demande si, Dieu lui dit ça.
Alors c'est pas biblique, et là on n'a pas le temps, mais on pourrait reprendre 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12 et les autres passages. Ouais, et donc je crois que le danger, c'est que parce qu'il y a des abus, on se dit je veux pas m'embêter avec je veux surtout pas tomber dans l'erreur. Donc je laisse ça de côté et je ne suis pas ouvert. Ce qu'on fait quelquefois ici, par exemple, quand on prie, c'est de dire on va prendre un moment de silence et voir si le Seigneur ne me met pas un verset à cœur ou une idée ou même une image. Et je crois qu'il ne faut pas... Ce serait triste si le Seigneur veut parler comme ça, qu'on se bloque, on dise les histoires de langue, de prophétie. On ne va pas prophétiser pour dire que les États-Unis vont envahir. Après, on peut étudier et puis dire, tiens, ça peut être l'État de Poutine, c'est la Libye qui va être vaincue par Misraïm, c'est l'Égypte, peut-être qu'il y a une prophétie. Mais toujours avec prudence et encore une fois en essayant de revenir à la parole et de justifier tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit par la parole. Je crois que c'est... Parce que sinon... Et il y a un goût du sensationnel où des gens aiment bien... On avait un ami, il aimait le Seigneur, mais il se donnait de l'importance en disant qu'il avait une prophétie. Et il disait « Oracle de l'Éternel » et il racontait n'importe quoi. Et je crois que le Seigneur... C'était à nous d'exercer le discernement, pas de... peut-être de le mettre en garde, d'être certain que c'est le Seigneur qui... Mais il y en a qui aiment ça. C'est une façon de se donner de l'importance. Le Seigneur m'utilise pour... Une chose aussi qui est très, très, très courante et qui frappe beaucoup les gens, c'est dans ces réunions un peu charismatiques où il y a le prédicateur qui va dire « Je sens qu'il y a la personne derrière la personne en rouge. » Et je sens que le Seigneur va utiliser cette personne de façon puissante. Et, alors ça peut être vrai. Souvent, c'est plus parce que quand tu reçois ça, tu entends, tu es prêt à verser un chèque, à devenir un soutien financier. Il faut exercer du discernement. Il ne faut pas être fermé aux esprits, mais tous... En plus, l'esprit est contrôle les prophètes. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je ne peux pas m'empêcher de parler en langue », c'est faux. L'esprit ne nous fait pas faire des choses comme aboyer par terre, ou, etc. Donc,
mais si on dit qu'on croit dans tous ces dons pour aujourd'hui, c'est vrai que la façon dont on a les cultes, les activités à l'église, il n'y a pas vraiment un endroit où on peut pratiquer ces...
Alors souvent, Paul expliquait qu'il préférait qu'il y ait des paroles intelligibles dans le culte plutôt que des paroles en langue. Mm-hmm. Et c'est plutôt en petits groupes qu'on peut pratiquer ça. Les groupes de prière, les groupes entre amis, je crois qu'au contraire, on peut dire bon, mais prenons un moment de silence et voyons si le Seigneur. Et des fois, quand on le fait, et on s'aperçoit que peut-être on va penser à un verset, on va dire mais ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. On va dire bon, mais je ne sais pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur le verset. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs en éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux et je ne sais pas quoi. Et puis tu partages ça, et puis il y a quelqu'un qui va dire, en fait, ça m'a beaucoup parlé parce que je me demandais si en tant que pasteur je pouvais partir en vacances ou si je devais être avec mon église dans cette période. Ou, je ne sais pas, mais c'est là que tu vois comment l'Esprit Saint est l'Esprit Saint et que c'est Dieu qui peut, il peut parler. Pas avec des nouvelles choses, mais parler dans nos situations avec sa vérité qui est déjà révélée. Mais c'est vrai que c'est souvent... question d'équilibre et que des fois, pour ne pas tomber dans un excès, on va à l'extrême opposé. Quoi. Et c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on peut corriger. Et il y a une époque, on faisait ça le mardi soir, mais on faisait ça assez régulièrement, et beaucoup de gens étaient bénis par ça. C'est vrai qu'il y a aussi des... Si on a l'habitude à ce que quelqu'un parle en langue, on est moins choqué. Et quand on fait des réunions inter-églises, on s'aperçoit qu'il y a parce que des cultures où ça se pratique en groupe. Les assemblées de Dieu sont connues pour avoir libre parole comme ça, mais souvent ça se fait dans le désordre, alors que c'est encore une fois, si on revient, ça doit être une parole après l'autre, dans l'ordre, tout se fait décemment. Et il ne s'agit pas de regarder tout ce qui va mal chez les autres, mais peut-être de se dire que chez nous on ne le fait pas assez, on ne donne pas assez d'importance à ça, et de dire que parce que sa parole est toute puissante et son esprit est toute puissant pour nous parler.